Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, c'est parti. Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est l'autre rentrée ce soir, celle de la Ligue des Champions de Football. Et oui, on reconnaît la musique avec deux belles affiches pour commencer. Lyon face au Zénith Saint-Pétersbourg, coup d'envoi dans moins d'une heure et vous n'en manquerez rien en restant avec nous. Et puis à 21h, Lille qui va jouer chez le demi-finaliste de l'an dernier, autrement dit l'Ajax d'Amsterdam. Climat tendu hein, d'ailleurs à Amsterdam où une centaine de supporters lillois a été arrêtée cet après-midi. Merci pour la musique. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le dernier espoir qui s'envole pour les salariés de Ford Blanquefort. La justice rejette l'ultime recours déposé par la CGT et déjà les premières lettres de licenciement arrivent. 872 salariés sur le carreau. La majorité divisée après les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Le président ne veut pas laisser le sujet à l'extrême droite au risque de froisser les siens.
Et on en parlera avec Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il sera avec nous en direct à 18h15 et vous pouvez l'interroger dès à présent en nous appelant au 3210.
La nouvelle arme du gouvernement contre le trafic de drogue, c'est l'OFAST, un organisme qui va coordonner toutes les actions à tous les échelons. Nouvelle arme, mais pas forcément l'arme fatale. À suivre également, le Big Bazar des manuels scolaires numériques et l'Iran montré du doigt après l'attaque contre l'Arabie Saoudite. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en légère hausse de 0,24% à 5615 points. Les courses à Compiègne, il fallait jouer l'As, le 3, le 8, le 4 et le 15.
La météo en silette avec Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
En silette, c'est le soleil. Hein.
Ben oui, c'est ça, c'est le soleil, effectivement, qui dominera encore demain. Encore et encore, effectivement, dans la plupart des régions. Ce sera même plus rapide dans la moitié nord que ce matin où il y a eu quelques nuages. Alors, à signaler peut-être un petit risque d'averse un petit peu plus marqué près des Pyrénées comme ce soir. Et puis, c'est tout. Et avec ce soleil, des températures encore estivales l'après-midi. 19 à 20 degrés près de la Manche, mais encore 20 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord. C'est un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais 26 à 31 degrés dans le sud.
Merci Louis.
Thomas Soto, RTL Soir.
C'est donc le coup de grâce pour les salariés de l'usine Ford Blanquefort en Gironde. La CGT avait saisi la justice civile. Elle voulait faire reconnaître que la fermeture du site n'avait pas de motif économique. Mais la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente. C'était le recours de la dernière chance pour faire annuler le plan social qui touche 872 salariés. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Philippe de Maria, et bien ses salariés, ils reçoivent en ce moment les premières lettres de licenciement.
Oui Isabelle, ça fait beaucoup et l'ambiance est donc lugubre cet après-midi dans les locaux du comité d'entreprise. La justice vient donc de botter en touche. Muriel travaille depuis toujours chez Ford.
Il n'y a personne qui est capable de rendre justice, quoi. Je trouve ça lamentable. Maintenant on n'a plus personne avec nous, il n'y a plus personne.
Philippe Poutou, leader historique des Ford Blanquefort, est habituellement très combatif, mais lui aussi accuse le coup.
Personne n'a vérifié l'existence d'un motif économique. Tout le monde sait que Ford fait des profits. Tout le monde sait que l'argent public a été accumulé dans les poches de Ford pendant des années. Ford peut partir comme ça. Donc voilà, on est scandalisé, écœuré, et c'est vrai qu'on est triste parce que c'est une bataille quand même assez longue et qu'on sait que là, on va être licencié. On n'aura pas réussi à empêcher ce qu'on tenait surtout à empêcher, c'était nos licenciements.
Et effectivement, les premières lettres de licenciement arrivent en ce moment au domicile des salariés. Muriel cherche donc activement du travail.
Je cherche un peu tout, j'aimerais bien dans l'aéronautique pour contrôler la qualité. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse.
Réponse pour l'instant ?
Pas de réponse, rien du tout.
Et pour se remonter le moral, les Ford Blanquefort organisent un grand concert samedi prochain à Mérignac avec comme slogan « Ford, même pas mort ».
Philippe de Maria, en Gironde pour RTL, notait que la CGT a quand même décidé de se pourvoir en cassation, mais sans grand espoir.
En politique, on ne sait pas si c'était son intention ou pas. En tout cas, Emmanuel Macron a semé le trouble avec ses déclarations sur l'immigration.
Le chef de l'État a longtemps entretenu une certaine ambiguïté sur le sujet. Bon, hier soir, il s'est montré on ne peut plus clair. La République En Marche doit regarder le sujet de l'immigration en face et ne pas être un parti bourgeois, voilà ce qu'il a dit. Il a réaffirmé son attachement au principe du droit d'asile, mais il a aussi dénoncé des demandes d'asile abusives. Il est aussi question de serrer la vis sur l'aide médicale d'État. Vincent Derosier, vous êtes à l'Assemblée pour RTL. Ces déclarations ont réveillé de vieilles tensions dans le parti majoritaire et une quinzaine de députés très contrariés demandent à être reçus par le président.
Oui, les mots du président ont réveillé des tensions dans la majorité qui étaient apparues lors du débat sur la loi asile et immigration. Malaise chez beaucoup de parlementaires qui ont l'impression d'abord aborder ce sujet n'importe comment, sans chiffres ni études précises. Les députés de l'aile gauche, eux, ne veulent pas jouer les frondeurs, ils préfèrent débattre, et si possible, débattre directement avec le chef de l'État. La demande de rendez-vous est partie ce matin à l'Élysée, dit le député du Vaucluse, Jean-François Cesarini.
Le président, lors de son discours, nous a dit « Moi, je suis à votre disposition, si vous voulez en parler. » Voilà, on le prend au mot. Le message, c'est de dire « Oui, il faut parler d'immigration, mais n'en parlons pas comme nos adversaires. »
Débattre sans tabou, d'accord, mais attention aux mots du président, préviennent les députés Martine Venner et Sonia Crimi. Elles demandent à Emmanuel Macron de ne pas faire de provocation sur ce sujet ultra sensible.
On n'est pas submergé par un flux migratoire quelconque. Ce n'est pas vrai. Ne nous laissons pas embarquer par ce type de discours.
Quand on touche à l'immigration comme ça, c'est comme si on dit aux gens « Vous n'êtes pas chez vous ». Ayons beaucoup de bienveillance quand on parle de ce sujet-là.
Et ces députés ne vont pas s'arrêter là. RTL a pu consulter une tribune adressée au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Tribune qui sortira jeudi et qui demande au gouvernement de ne pas restreindre l'aide médicale d'État.
Vincent Derosier à l'Assemblée pour RTL. Ce matin, à nouveau, le campement de migrants de Grande-Synthe dans le Nord a été évacué. Un millier de personnes ont été mises à l'abri, mais les associations prévoient d'ores et déjà qu'elles reviendront rapidement. Le président à la manœuvre donc sur l'immigration et quatre ministres, pas moins, pour relancer la guerre contre le trafic de drogue. Christophe Castaner, Laurent Nunez, Nicole Belloubet et Gérald Darmanin étaient aujourd'hui à Marseille pour présenter leur plan de bataille. 55 mesures, la plus importante étant la création d'un nouvel organisme, l'OFA. OFAST pour Office Anti-Stupéfiant. Il doit coordonner l'action de tous les acteurs des stupes. Olivier Bois, vous êtes à Marseille pour RTL. On a quand même le sentiment qu'on se contente de repeindre la façade.
Écoutez, en tout cas, il y a le constat, pour le coup lucide, d'une organisation qui jusqu'à maintenant était imparfaite. Trop de rivalités de services sont venues pénaliser des enquêtes avec des policiers, des gendarmes, des douaniers qui trop souvent ne partageaient pas l'information et n'allaient pas au bout des affaires, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
L'OFAST sera également le lieu du travail en commun. Notre objectif est simple, mutualiser nos forces. Nous voulons frapper fort, nous voulons frapper ensemble et envoyer un message clair aux trafiquants, la France ne sera pas leur terrain de jeu.
Il y aura donc au sein de cet office anti-stup des policiers, des gendarmes, des magistrats avec des relais locaux partout en France pour que systématiquement les informations remontent du terrain pour tenter à chaque fois, c'est l'objectif en tout cas, de définir une stratégie commune. L'enjeu est immense, le trafic de drogue n'a jamais été aussi important en France et jusque-là les précédents plans d'urgence n'ont eu qu'un impact pour le moins limité.
Olivier Bois à Marseille pour RTL.
À l'étranger à présent, deux jours après l'attaque contre l'Arabie Saoudite, les États-Unis pointent de plus en plus le doigt et un doigt accusateur vers l'Iran. Isabelle.
On n'en est pas encore effectivement à une accusation franche et directe et encore moins à une riposte militaire, mais les services américains ont désormais la certitude que des missiles de croisière ont été utilisés et qu'ils ont été tirés depuis l'Iran. C'est que les Américains et les Saoudiens d'ailleurs ont réussi à remonter la piste de ces missiles, Philippe Corbet.
Oui, parce que plusieurs missiles n'ont pas atteint leur cible et au moins l'un d'entre eux a été retrouvés quasiment intacts dans le désert. Donc les services saoudiens et les enquêteurs américains sur place ont pu récupérer les débris et examinent les circuits électriques, les composants électroniques, la motorisation, le mécanisme de guidage. C'est comme ça que les Américains arrivent à la conclusion que ce sont des missiles iraniens tirés depuis le territoire iranien. Ensuite, ils cherchent à confirmer avec les relevés radars que ces missiles sont partis de bases proches de la frontière irakienne et donc qu'ils ont survolé l'Irak, le Koweït et plusieurs centaines de kilomètres de désert saoudien à basse altitude, accompagnés de drones pour aller frapper ces installations pétrolières stratégiques. Ce vol à basse altitude expliquerait pourquoi les dispositifs antimissiles saoudiens n'ont pas pu les repérer.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. En ce qui concerne le cours du pétrole, notez que le baril de brut qui avait flambé hier a perdu autour de 5% aujourd'hui grâce à des informations positives. Certains médias estiment que la production saoudienne pourrait reprendre pleinement d'ici 2 à 3 semaines. En France, le gouvernement appelle les compagnies pétrolières à la modération sur une possible hausse des prix.
Et puis, complètement dans l'irrationnel, en tout cas, dans les cours du brut, en fonction des rumeurs, des
les marchés boursiers, c'est un peu comme ça, oui, effectivement. Et puis en Tunisie, c'est confirmé, le second tour de la présidentielle opposera l'universitaire sans étiquette Kaïs Saed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est actuellement en prison.
Dans un instant, le grand bazar, le grand bazar des manuels scolaires numériques.
RTL Soir, 18h09.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir 18h10, Thomas Soto et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et on va parler des manuels scolaires numériques. A priori, on se dit que c'est une bonne idée, que ça va être formidable. C'est pas si simple, hein, Isabelle, visiblement.
Eh ben non, FBI, fausse bonne idée. C'est la PEP, une association de parents d'élèves qui sonne l'alarme. En effet, deux régions ont déjà sauté le pas numérique, le Grand Est et l'Île-de-France, mais il n'y a pas eu de concertation, alors ça flotte un peu. Les parents ne s'opposent pas au manuel numérique, mais ils réclament un peu d'organisation, Marie Guerrier.
On ne peut pas décider de passer au manuel 100% numérique sans concertation, dit la PEP. Son président, Gérard Pommier, hausse le ton.
Ce type de décision, c'est de l'idéologie. Ça ne peut pas marcher comme ça, à coup de diktat. Et puis surtout, on magnifie voilà, le numérique en pensant que ça va résoudre tout. Et nous, parents, nous serions coupables si nous laissions faire.
L'association s'appuie sur les premières remontées de terrain. Le porte-parole de la PEP, Hubert Salin.
Pour les familles, c'est séduisant. C'est vrai que ça résout le problème du poids des sacs, mais ça fait aussi qu'il y a des élèves qui arrivent dans l'établissement avec une tablette qui est déchargée.
Plus embêtant, le risque d'inégalité territoriale et sociale. Dans le Grand Est, le matériel est à la charge des parents.
Leur proposer soit une tablette, soit un petit ordinateur, soit un gros ordinateur. Selon les revenus des personnes, ça coûtait de l'argent, des coûts d'assurance.
En Ile-de-France, la région fournit les tablettes.
Souvent, il n'y a encore rien d'arrivé dans les établissements. Ce qui va compter aussi, c'est beaucoup la formation des enseignants.
Et puis, il y a la question de la surexposition aux écrans.
Beaucoup de PDG de ces géants du numérique aux États-Unis interdisent à leurs enfants l'usage de tablettes à la maison. Ils savent les dangers.
La PEP veut donc constituer maintenant un groupe de réflexion indépendant.
Des sociologues, des pédagogues, des personnes des régions aussi qui nous disent quel est l'intérêt, comment on va construire ça.
Il ne s'agit pas de diaboliser le numérique, mais d'en avoir un usage équilibré.
Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. Il avait 23 ans, il était en 5e année de pharmacie à l'université de Rouen. Un étudiant est mort samedi lors d'un week-end d'intégration en Belgique. C'est l'université de Picardie qui avait organisé l'événement, mais les étudiants pouvaient venir de toutes les régions. Vraisemblablement, ce jeune homme a été renversé par une voiture après avoir beaucoup bu. La ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui avait instauré une sorte de charte de bonne conduite l'an dernier, regrette aujourd'hui que les étudiants tentent d'y échapper.
Ce dont je voudrais être sûre, c'est que ça n'est pas un choix volontaire de se soustraire à ce que demandent ces chartes, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, nous avons raté quelque chose. Nous avons raté le fait que les jeunes comprennent que ce que nous sommes en train de faire, c'est les aider et non pas vouloir interdire ces week-ends d'intégration. Et c'est vraiment un appel que je voudrais passer à tous les jeunes qui prévoient d'aller dans les week-ends d'intégration dans les semaines à venir. Par pitié, ne mettez pas votre vie en danger et ne considérez pas que boire jusqu'à vous rendre ivre-mort et parfois mort tout court, c'est une façon de s'amuser.
La ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, au micro RTL de Nicolas Burnan.
Elle est de retour, donc elle, c'est la Ligue des champions qui redémarre ce soir, Isabelle.
Oui, en attendant le PSG demain, deux clubs français en lice ce soir. Lyon qui affronte le Zénith Saint-Pétersbourg tout à l'heure à 18h55. Et Lille qui revient parmi les meilleurs après 7 années d'absence. Retour par la grande porte avec un adversaire aux allures d'ogre, l'Ajax Amsterdam. C'est pas gagné, Hervé Veug.
Chacun en est conscient, le LOSC est le petit poussé de cette Ligue des champions qu'il n'a plus connu depuis 7 ans. Et une mémorable fessée 6 buts à 1 à Munich. À la barre du vaisseau nordiste, Christophe Galtier se veut toutefois optimiste.
On a quand même la chance de jouer cette compétition. À partir du moment où il y a un match, il y a automatiquement de l'espoir.
Et pour mesurer l'immensité du défi, un chiffre, seuls 4 joueurs lillois ont disputé des rencontres de Ligue des Champions. Même le capitaine portugais José Fonte va la découvrir.
Et quand tu as joué la finale d'Euro, ça c'est vraiment un match difficile. C'est une récompense de ma carrière et je veux profiter bien de cette match et j'espère qu'on peut faire un grand match.
Le LOSC va donc s'étalonner face à un must européen, sans a priori, mais sans grande expérience non plus.
Hervé Veug qui suit le LOSC pour RTL, espérons que ça se passe bien ce match parce qu'une centaine de supporters lillois ont été arrêtés cet après-midi à Amsterdam pour des violences et aussi pour des tirs de feu d'artifice.
Ah, il paraît que j'ai dit une bêtise, j'ai dit l'Ajax d'Amsterdam et les puristes me signalent sur les réseaux sociaux qu'il faut dire l'Ajax Amsterdam comme on dit le Real Madrid. En tout cas, ce match entre l'Ajax Amsterdam et Lille, eh ben, vous n'en raterez pas une miette sur RTL. Et pour Lyon-Saint-Pétersbourg, on sera en but par but, en direct à tout moment, à partir de 19h évidemment. Pendant On refait le monde. Bref, restez avec nous. Merci Isabelle.
À tout à l'heure.
RTL sort 18h15.
Le débat sur l'immigration est lancé. Emmanuel Macron durcit le ton, on en parlait à l'instant. La classe politique s'agite. Eh bien, on y revient avec Pascal Brice, c'est l'ancien directeur de l'OFPRA.
Et pour poser vos questions en direct à Pascal Brice, appelez-nous au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.
Je suis menuisier.